Un excellent sabbat à vous tous. C'est bon de revoir les mines réjouies, les beaux sourires, de se retrouver pour s'encourager en ce jour spécial de la semaine, qui n'est pas le nôtre, c'est celui du grand patron qui nous l'a donné pour être encouragé, puis être enseigné, puis nous exhorter les uns les autres. Le titre de mon message aujourd'hui, très très simple, c'est un petit passage des Écritures, « Que votre lumière luise ». Que votre lumière luise. Maintenant, je précise tout de suite que le sermon que je vais vous donner, je l'ai tiré majoritairement et presque exclusivement d'un article qui est paru dans le Living Church News de juillet à août 2016, écrit par M. Roderick C. Meredith. En anglais, c'est « Let your light shine ». Et quand j'ai lu cet article-là comme étude biblique personnelle, ça m'a frappé et je me suis dit « Il faut que les gens aient ce message-là dans ces grandes lignes, au moins. Parce que c'est très important que nous comprenions les choses qui y sont expliquées par le serviteur de Dieu. Et ça concerne pas seulement les anciens dans l'Église, ceux qui sont là depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans et même davantage, mais les nouvelles personnes aussi. Et ça va vous donner des clés pour savoir comment agir pour vraiment être une lumière, comme la Bible nous dit d'être, mais selon Dieu, selon la Bible. Vous savez qu'après le retour de Christ, ceux d'entre nous qui vont être fidèles jusqu'au retour de Christ, on va être appelés à changer le monde dans lequel nous vivons. Nous allons mettre un terme à toutes les souffrances, aux misères, aux maladies, et on aura la charge d'enseigner les gens, de leur montrer la voie de vie qui mène à la paix, au bonheur, à l'abondance. Ce sera notre travail dans le monde de demain, pas maintenant, mais au retour de Christ, on sera appelé à changer le monde. Maintenant, aujourd'hui, ceux qui sont appelés à se changer eux-mêmes. Nous sommes appelés à nous changer nous-mêmes avec la force de Dieu. Personnellement, on n'est pas capable. On n'est pas capable de vaincre nos faiblesses. On n'est pas capable de développer le caractère de Dieu sans avoir l'aide de Dieu, sans avoir sa force pour vaincre nos faiblesses. Alors, on doit d'abord se changer soi-même au cours de la vie qui nous est donnée maintenant, par la puissance de Dieu. Notre rôle, donc, c'est de changer de façon de vivre, de façon de penser, de façon d'agir pour imiter en toute chose le Christ qui est la lumière du monde. Alors, notre rôle dans ce sens-là, et M. Meredith l'explique clairement, ce n'est pas de changer les autres. Ce n'est pas de changer les autres. Ce n'est pas d'essayer de les convertir par nos paroles ou par nos arguments de toutes sortes, même si ce qu'on a appris dans la Bible est enthousiasmant. Et je dois vous dire que j'ai fait cette erreur-là, comme à peu près tout le monde qui vient à l'Église la font. Quand on trouve la beauté du plan de Dieu, on est tellement content qu'on veut que nos parents, nos amis, nos voisins le sachent. Et c'est par amour pour eux qu'on veut le faire. Mais on ne réalise pas qu'on ne doit pas le faire, que ce n'est pas nous qui appelons ces gens-là et qui pouvons leur donner de comprendre. C'est seulement Dieu qui peut appeler quelqu'un et mettre dans son esprit de vouloir comprendre sa parole et d'être capable d'aller plus loin. Comme c'est écrit dans Jean 6, verset 44, le Christ dit, « Personne ne peut venir à moi, personne ne peut devenir chrétien, à moins que le Père ne l'attire. » Il faut que ce soit Dieu qui décide d'appeler la personne. Et on sait qu'à cette époque-ci, Dieu n'appelle qu'un tout petit troupeau. Alors, comprenez-vous que ce n'est pas notre rôle d'essayer de convertir les autres, absolument pas. Si certaines personnes ont des questions réelles autour, on doit leur répondre, bien sûr. Mais ce n'est pas à nous de prendre le chemin, pour ainsi dire, ou d'aller frapper à la porte de nos amis ou de nos connaissances pour aller leur parler de la Bible, sans qu'ils nous demandent. Alors, maintenant, je vais plus loin. Comment des chrétiens doivent-ils se comporter pour gagner le respect de leurs voisins et de leurs amis qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas appelés maintenant. Parce qu'on vit différemment de ce qu'on vivait auparavant, et ça paraît, ça doit paraître d'ailleurs. Si ça paraît pas, c'est qu'il y a un problème, c'est que j'ai pas assez changé. Si j'agis aussi mal que j'agissais avant, j'ai pas assez changé. Mais à un moment donné, ça devient clair qu'on a changé. Alors, comment vivre une vie joyeuse et productive sans repousser les autres par notre propre justice? Et ce qu'on fait dans ce sens-là, et moi j'ai demandé pardon à Dieu quand j'ai essayé d'expliquer ça à mon père, quand j'ai essayé d'expliquer ça à mes amis qui n'ont pas compris, qui me trouvaient bizarre, avec raison, parce que je l'étais bizarre, ils ne pouvaient pas comprendre. Dieu ne les appelait pas. Et j'avais l'air de venir d'une autre planète, et c'était le cas, parce que je leur expliquais des choses qu'ils étaient incapables de saisir, parce que je ne devais pas faire ça. Mais en faisant ça, sans m'en rendre compte, c'est que je mettais de l'avant un peu ma propre justice. Moi, j'ai compris. Moi, je sais comment vivre selon les lois de Dieu. Même si j'en vivais pas à moitié, j'arrivais. Alors, voyez-vous, mais c'est facile aux êtres humains de se sentir juste parce qu'on a trouvé quelque chose. On n'a pas encore commencé à en vivre vraiment, puis on veut changer tout le monde alentour. Voyez-vous, là, je décris un peu pour qu'on comprenne les réactions qu'on a tous eues et qu'on a tous quand on vient à l'Église. On apprend. Et parfois, on apprend de la façon dure. On perd des amis. Et on risque d'éloigner des gens de notre famille, fortement, même nos parents ou nos enfants, si on agit de cette façon-là. Alors, comment vivre une vie joyeuse et productive sans repousser les autres en faisant preuve de propre justice? Et de l'autre côté, sans faire de compromis par rapport à nos croyances. Parce que quand on croit Dieu et qu'on commence à mettre en pratique ses lois, on ne se cache pas pour le faire. On n'en fait pas une démonstration, mais on fait ce qu'on a à faire. Quand il faut partir pour aller à l'Assemblée de Sabbat, on part pour aller à l'Assemblée de Sabbat, parce que c'est un commandement de nous présenter à la Sainte Convocation, comme la Bible dit. C'est une convocation comme une convocation pour aller à la cour. Quand un juge ou un tribunal convoque quelqu'un, on n'a pas le choix. Et ceux qui veulent obéir à Dieu, ils n'ont pas le choix d'une certaine façon, parce qu'ils veulent être là pour plaire à Dieu. Alors, il ne faut pas faire de compromis avec nos croyances en cherchant à être accepté par les autres pour pas que ça paraisse, vous savez. Il ne faut pas faire de démonstration pour que ça paraisse, mais on ne peut pas tout cacher non plus. Alors, il faut être soi-même, avoir le courage de nos convictions. La Bible nous dit comment faire. Moi, je pose la question en partant, est-ce que vous êtes une lumière? Est-ce que votre lumière, lui? Allez dans Matthieu chapitre 5, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 5, on va lire le verset 14, à partir du verset 14. Êtes-vous une lumière? Et je pourrais ajouter, êtes-vous une lumière chrétienne? Parce que c'est de ça dont il est question. Ici, le Christ dit ceci, en parlant de ceux qui sont appelés à notre époque, ceux qui font partie de son Église. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et regardez le verset 16. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, vos façons de faire, les changements que vous avez apportés. Si vous étiez porté à boire trop avant, vous avez cessé de boire, vous avez maîtrisé vos tendances, et ainsi de suite. Les gens voient que vous avez changé. Vous observez un jour que vous n'observiez pas avant. Vous ne participez plus à des fêtes comme Noël ou les Pâques ou ces choses-là, parce que vous avez compris de quoi il s'agissait et que vous savez les fêtes de Dieu. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, vos nouvelles façons de faire, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Maintenant, je repose une question. Comment laisser notre lumière luire devant les autres? Ici, je fais une précision sur ce que le Christ vient tout juste de dire. Et elle est importante, la précision. Et ça va avec l'explication que je vous donne aujourd'hui, le thème du message. Jésus a dit que les hommes verraient nos bonnes œuvres. Il n'a pas dit que les autres autour entendraient nos constantes paroles, nos allusions puis nos tentatives d'expliquer la Bible à ceux qui ne veulent pas l'entendre. C'est clair. Il a dit, ils vont voir et non pas entendre. Et une lumière, ça n'émet pas de son. Une trompette, oui. Alors, c'est pour ça que parfois, j'explique à des gens, Dieu nous a appelés en tant que membres de l'Église, non pas pour être des trompettes dans le voisinage et pour tous ceux que vous connaissez, mais pour être une lumière, c'est-à-dire quelqu'un qui éclaire de sa façon de vivre nouvelle ceux qui sont autour. Et s'il y en a qui veulent savoir de quoi il s'agit, ils vous poseront des questions et là, vous répondrez avec sagesse et avec limitation. Voyez-vous, c'est ça. S'il y a des questions. Et je vous donne le message parce que ça peut aider plusieurs d'entre nous, même des membres anciens. parce que j'ai eu l'occasion de me rendre compte que certains membres anciens avaient comme oublié ces choses-là avec le temps et avaient tendance à vouloir vendre ces choses-là à leurs enfants ou à leurs parents ou à des amis très chers. Ils avaient oublié que ce n'est pas nous qui appellent. Et il ne faut pas jouer ce jeu-là. C'est quoi nos bonnes œuvres qu'on doit faire, que les gens vont voir et qui seront un témoignage de qui on est? Et s'ils ont des questions, ils en poseront. C'est votre gentillesse et la mienne qu'on doit développer. On ne l'avait peut-être pas tous au même niveau avant. On la développe, gentillesse envers tous ceux qu'on rencontre. Souci des autres. Peut-être que vous ou moi, on avait moins souci des autres. On se souciait plus de petits mois que des autres. Alors, on développe de se soucier des autres. Parce qu'en plus, quand on comprend l'appel de Dieu, on comprend que Dieu ne nous appelle pas d'abord pour être sauvés, mais pour faire son œuvre et aider les autres à être sauvés et en même temps, nous, être sauvés. Mais on n'est pas appelé d'abord pour nous-mêmes. On est appelé pour donner aux autres. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le Christ a été le premier à donner. Dieu le Père a été le premier à donner. Et on doit s'inscrire dans la même démarche que le Père et que le Christ. Alors, nos bonnes œuvres qu'on doit développer, c'est la gentillesse envers tous ceux autour de nous. Souci des autres, considération, rendre service. Et quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça suscite l'admiration et ça suscite le respect des personnes qui ne sont pas appelées et qui ne sont pas converties. Et si jamais Dieu se sert de vous pour convertir quelqu'un ou pour l'appeler, ça va se manifester de la bonne façon. Il y aura des questions et vous allez répondre de la bonne façon. Mais ce n'est pas vous qui allez aller au-devant. Ce n'est pas ce qu'on a à faire. Et ce qui va arriver, plus on se comporte comme ça et les gens voient autour qu'on est différent, mais qu'on est gentil, puis que c'est agréable d'être avec nous, bien, comprenez-vous que dans le futur, ils vont réaliser, quand Dieu va les appeler à leur tour, peut-être seulement après le retour de Christ, ils vont réaliser pourquoi vous étiez comme ça, d'où ça venait, puis d'où vous venait la force pour changer. Alors que vous étiez peut-être avant un fêtard ou un monsieur qui exagérait ou une madame qui faisait des choses pas correctes, vous avez changé. Les gens vont dire, là, on comprend pourquoi. C'est que Dieu l'avait appelé et lui a donné la force de changer. Il va faire la même chose avec moi. Comprenez-vous? Dans le futur, les gens vont réaliser que ça venait de Dieu et alors ils vont glorifier Dieu. 1 Pierre 2, verset 12. 1 Pierre 2, verset 12. Un superbe verset qui est encourageant dans ce sens-là. 1 Pierre, chapitre 2, et les versets 12. « Ayez, au milieu des païens, une bonne conduite, des bonnes œuvres, une bonne façon de vivre, et ainsi de suite. Ayez, au milieu des païens, ce n'est pas un terme méprisant, c'est au milieu de ceux que Dieu n'appelle pas encore, mais que Dieu aime et qu'il va appeler en son temps, quand lui va juger que c'est le meilleur temps pour eux autres. Ayez, au milieu de ceux qui ne sont pas convertis, on pourrait dire ça, ou qui ne sont pas appelés, ayez une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, parce qu'ils disent toutes sortes de choses de vous et de moi, parce qu'on ne vit pas comme eux autres, ou on a cessé de faire des choses qu'on faisait avec eux autres avant, et ils nous trouvent bizarres et ils nous rejettent. C'est ça ici. Il dit, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils ne sont pas d'accord avec ce que vous faites, ils remarquent vos bonnes œuvres, ils le remarquent, parce que ça les touche, et glorifient Dieu. Sur le coup, non. Sur le coup, ils vous trouvent bizarres puis ils vous rejettent. Et qu'il glorifie Dieu au jour où il les visitera. Le jour où lui, le grand patron, Jean 6, 44, va décider de les attirer au Christ. Là, ils vont comprendre, pas avant. Comprenez-vous comment on doit se comporter et pourquoi on doit le faire de cette façon-là? Maintenant, je vous cite ce que M. Meredith a écrit, je vous le cite en gros, dans son article concernant ça. Il dit, le fait d'argumenter, de participer à des débats, de contester les croyances des autres et d'essayer de les convaincre qu'ils ont tort, vous ne trouverez ça nulle part dans la Bible. Vous ne trouverez ça nulle part dans la Bible, parce que c'est Dieu qui appelle. Si vos amis et vos parents ne sont pas intéressés à l'Église de Dieu, ça ne les aidera absolument pas, bien au contraire, si vous les harcelez constamment avec ce que eux considèrent être votre religion. Comprenez-vous? Je mets ça le plus clair possible pour que ça nous aide vraiment. Et parce que c'est la perception que les gens ont et on ne peut pas leur reprocher parce qu'ils ne comprennent pas. C'est à nous de comprendre qu'ils ne comprennent pas et d'agir en conséquence. À ce moment-là, on ne garde pas la sauce avec personne. On est des bons exemples Et si jamais ils ont des questions, on peut leur répondre, mais de façon très brève. Et là, on voit s'ils sont sérieux par leurs questions ou s'ils veulent simplement nous piéger. Parce que ça arrive parfois que certaines personnes nous voient faire des choses différemment, nous posent des questions, mais c'est pour nous piéger puis argumenter. Si ça arrive dans ce sens-là, on peut simplement dire, écoutez, ça ne donne rien de continuer la conversation, on est sur deux longueurs d'onde différentes, restons amis puis ne parlons plus de ça. Comme quelqu'un qui a tendance à chicaner avec d'autres pour les questions politiques, à un moment donné, dans les familles, pour garder la paix, ils disent, bien, parlons plus de politique. Hein? Alors, c'est la même chose en termes de religion. Avec quelqu'un qui n'est pas appelé et qui ne pose pas des questions vraiment pour savoir, pour aller plus loin, mais des questions pour vous piéger, c'est mieux de dire simplement, écoutez, je pense qu'on est différent là-dessus, je respecte votre cheminement, respectez le mien, on est mieux de ne pas continuer à en parler là-dessus. Et à ce moment-là, on ne se fait pas d'ennemis. Les gens même apprécient qu'on n'essaie pas de combattre avec eux autres. On n'a pas de combat à mener. Le combat qu'on a amené, c'est pour changer notre nature humaine charnelle à nous autres. Ça, ce combat-là, on a amené. C'est intéressant que Meredith parle les choses de cette façon-là. D'ailleurs, vous savez qu'il y a plusieurs religions dans le monde qui poussent leurs membres à aller même de maison en maison puis à convaincre leurs amis, leurs voisins et tout ça. Mais c'est contre la Bible. Même la Bible dit « n'allez pas de maison en maison » dans Luc. Alors, on n'a pas à aller essayer de convaincre quelqu'un, c'est encore le même principe. C'est dommage. Il y a des gens qui font des sacrifices énormes pensant qu'ils plaisent à Dieu, mais ils font le contraire de ce que Dieu demande de faire. Alors que Dieu dit, c'est moi qui appelle, c'est pas vous qui appelez. C'est moi qui appelle, c'est Dieu qui appelle. Alors, quelle sorte de bonnes œuvres faire pour être une lumière? Allons plus loin maintenant. On va préciser certaines choses. Autrement dit, quelles sont les bonnes œuvres qui glorifient Dieu de notre part et qui vont permettre à certaines personnes plus tard de comprendre ces choses-là? Moi, je vous dirais qu'avant toute chose, point de départ, avant toute chose, la base, c'est que nous-mêmes, nous soyons proches de Dieu. Que nous-mêmes, nous soyons proches de Dieu. On ne peut pas être des lumières si on n'est pas proche de Dieu. C'est simple. Parce qu'on ne vivra pas comme Dieu nous demande. On va être en compromis continuellement ou on va être en régression spirituellement. Il faut être proche de Dieu, constamment. Chaque jour, étudier la Bible. Chaque jour, prier Dieu. Aller chercher la force qu'on a besoin. Jeûner, pas seulement à la fête des expiations, mais à quelques reprises au cours de l'année. Et s'efforcer de mettre en pratique les lois que Dieu nous montre. Si on fait ça, on devient cette lumière-là, notre lumière, lui, voyez-vous? Et ce qui va se produire, et ça va se produire avant longtemps, Dieu va donner à son Église, si les membres dans leur ensemble font la même chose, s'approchent de Dieu, respectent ces critères-là pour être proches de lui, pour être des lumières, sans être des trompettes, Dieu va donner à son Église davantage de puissance pour faire même les œuvres qu'au début de l'Église, il faisait. Et même des plus grandes. Parce que je le dis, non, parce que c'est écrit. Allez dans Jean 14, Jean chapitre 14. Et ça, c'est une époque qui s'en vient, où l'Église de Dieu va accomplir des choses beaucoup plus grandes qu'elle n'a fait jusqu'à maintenant, des choses semblables à ce que l'Église du temps du Christ a fait. Jean 14, versets 11 à 14. Regardez ce que le Christ dit. « Croyez-moi. » Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres, les œuvres que le Christ faisait. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, et il en fera de plus grandes. Et c'est quelque chose, là. Il en fera de plus grandes que le Christ faisait, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et voyez-vous, les choses principales qu'on demande à Dieu, un, c'est de faire sa volonté, deux, c'est de faire son œuvre pour que toute l'humanité soit libérée de la misère qui l'accable actuellement. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et après, on peut demander les choses qu'on a besoin, nous, personnellement, dans notre prière. Dans 1 Corinthiens 12, verset 27, il est écrit, « Vous êtes, en parlant des membres de l'Église, vous êtes le corps du Christ. » Nous formons l'Église. C'est ça l'Église, le corps du Christ, Ecclésia. Les appelés, ceux qui sont appelés à sortir des anciennes façons de faire qu'ils avaient, à sortir des voies du monde pour vivre selon les voies de Dieu et marcher dans les traces du Christ. Vous êtes le corps du Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alors, chacun d'entre vous ici qui est appelé, vous avez une part à jouer maintenant. parce que vous faites partie du corps du Christ. Et ce corps du Christ-là, l'Église avance vers le fait de compléter la mission qui nous a été confiée pour que le Christ revienne et que l'humanité soit libérée. Alors, comprenez-vous que chacun d'entre nous, on a une part à faire, un rôle à jouer. Et on a, dans ce sens-là, à être la lumière du monde, à avoir des bonnes œuvres pour les gens autour. Donc, une œuvre importante, et je dirais la plus proche de nous à faire, c'est par rapport à nos voisins, les personnes qui sont autour de nous, soit à l'école, soit au travail, soit nos voisins où on habite, dans un immeuble ou dans des maisons. Et allez à Luc chapitre 10. Le Christ a donné une très belle parabole par rapport à ça. Luc chapitre 10. Monsieur Meredith la donne dans son article. Luc chapitre 10, on va lire le verset 30 à 37. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. » Vous savez, c'est la parabole du bon Samaritain. « Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, fortuitement, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. » Donc, un homme religieux, dans les principaux de chefs religieux de l'époque. Verset 32, « Un Lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. » Il voit l'homme blessé, ensanglanté sur le bord du chemin. Ces deux hommes, très religieux, très convertis, passent tout droit, alors que la personne est dans cet état lamentable. Mais un Samaritain, et juste pour vous situer, les Samaritains étaient considérés comme les ennemis des Juifs. Les Juifs les traitaient comme moins que rien parce qu'ils n'étaient pas Israélites, justement. Alors, un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Alors le Christ prend cette petite histoire pour enseigner quelque chose. Il dit, « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » Je pense qu'on connaît la réponse très claire. « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, » répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Alors, voyez-vous, notre prochain, c'est les voisins autour de nous. Ce sont les voisins autour. Et c'est envers ceux-là qu'on doit manifester les bonnes œuvres, dans la mesure du possible. C'est sûr que dans la société où on vit, il faut faire preuve de sagesse et de discernement aussi, parce que parfois, il y a des gens qui peuvent être dangereux et il ne faut pas se jeter non plus dans la gueule du loup. Il faut faire les nuances qui s'imposent de ce côté-là. Mais à des gens, entre guillemets, normaux qui ont besoin, on ne doit pas refuser notre aide quand on peut donner notre aide dans la mesure du possible. Voyez-vous? Ça, c'est la chose à faire. C'est une très belle parabole. Et voyez-vous, le Samaritain, lui, qui n'était pas un Israélite, qui ne croyait pas au Dieu des Israélites, il n'était pas trop bon, lui, pour aider le gars qui était malade, le gars qui était blessé. Lui, il n'était pas trop bon, il n'avait pas la propre justice pour dire, « Moi, je connais le vrai Dieu, moi, j'ai la loi. » Lui, il ne connaît pas. Lui, voyez-vous, alors, il faut s'occuper de tous, pas seulement des croyants, quand on peut aider d'autres personnes. Notre prochain, c'est tout autre être humain. Alors, il dit, « Va. » Et toi, fais de même. Ça s'adresse à moi, ça s'adresse à vous. Remarquez bien qu'on ne se retrouve pas toujours, heureusement, dans des situations aussi graves puis aussi extrêmes que celle-là. Mais ça nous donne, si vous voulez, le principe à suivre. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que je suis un bon voisin? Est-ce que je suis poli envers mes voisins? S'il y a quelqu'un autour dont le visage me revient moins, est-ce que je suis capable de faire un effort pour être gentil, poli envers lui, tout simplement? Parce que les gens ne nous attirent pas tous de la même façon, c'est normal. Mais est-ce que je peux être poli envers lui, le remercier lorsqu'il fait des choses qui peuvent m'aider, et ainsi de suite? Ne pas avoir d'argument avec les voisins. Ne pas argumenter ou contester les opinions. De toute façon, on n'a pas d'opinion politique à contester, on ne se mêle pas de politique. Alors, voyez-vous, ça limite les choses beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, évitez les sujets de contestation. S'il y a une contestation qui veut commencer, on sortir ou on dit, bien, moi, j'aime mieux pas discuter de ça, tout simplement. Voyez-vous, on devient des pacificateurs. La Bible nous dit, soyez des pacificateurs. Une autre façon d'être un bon voisin ou un bon collègue de travail ou un bon collègue d'études, c'est de savoir écouter. Parfois, un voisin ou une voisine a besoin de parler pour avoir une oreille. Et si on prête oreille attentive à quelqu'un qui a besoin, ça fait toute la différence. Je me rappelle, dernièrement, on est allé à l'épicerie, mon épouse et moi, puis la serveuse, celle qui était aux caisses, avait été maltraitée, rudoyée de façon épouvantable par un client qui ne voulait rien entendre et qui s'en prenait à elle parce que le magasin fermait à telle heure. C'est pas elle qui fixe les heures. Elle passe les produits pour la facture. Alors, il l'avait engueulée, puis il l'avait rabaissée comme c'est pas possible. Elle était écrasée, pauvre petite. Quand nous, on est arrivés, elle avait besoin de ventiler un peu puis d'être capable de prendre une pause. Alors nous, ce qu'on a fait, on a diminué la cadence, on s'est pas pressé pour passer nos articles, puis on a simplement dit, il y a des moments que c'est difficile, hein? C'est difficile le travail que vous faites, mais tenez bon, c'est beau de vous voir tenir le même. Et puis, alors là, elle a commencé à nous raconter ce qu'elle venait de vivre, qu'est-ce qu'elle avait ressenti, puis c'était pas la première fois, puis comment est-ce que souvent les clients étaient très exigeants, puis c'était pas de leur faute. Bon, on est reparti, elle respirait mieux. Je suis certain que le restant de sa journée a été bonne. Et Dieu nous a donné l'occasion de pratiquer. Et on a reparlé après, ça a été vraiment un encouragement pour nous de pouvoir le faire. On a des occasions comme ça qui se présentent. Utilisons-les. Écoutons les gens quand ils ont besoin de parler de leurs problèmes, pour les encourager. Vous savez la règle d'or dans Matthieu 7, verset 12, hein? C'est toujours ça. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est simple. On est content quand quelqu'un nous aide, on est content quand quelqu'un nous écoute, quand quelqu'un nous encourage, quand quelqu'un nous arrive avec une petite surprise ou une consolation, bien c'est la même chose sur l'autre côté. Les autres en ont besoin aussi. Maintenant, je veux préciser un point dans le message que je vous donne, un point que M. Meredith a précisé et que j'ai trouvé excessivement important. Il faut comprendre aussi. C'est qu'au départ, il faut être conscient d'une chose. Dans le fait qu'on est des chrétiens, qu'on doit vivre différemment et que notre lumière doit luire. On doit être conscient d'une chose, c'est que vos voisins, vos amis, vos proches qui ne sont pas appelés ont un esprit charnel, comme vous aviez avant que Dieu vous appelle. Un esprit simplement charnel comme vous. Et ils ont naturellement une opinion négative de vous parce que vous êtes d'une religion différente, difficile à comprendre, et ainsi de suite. Ils ont une opinion négative de vous et de moi. Il faut le savoir, il faut en être conscient. Et à ce moment-là, on peut être gentil quand même, pour être gentil, mais passer au-dessus de ça. Et par cette gentillesse-là, les gens voient que, bon, on n'est pas si terrible que ça, si vous voulez, et ça prépare le terrain pour le temps où Dieu va les appeler. Mais naturellement, ils ont une opinion négative de ceux qui vivent selon les commandements de Dieu et qui observent les fêtes de Dieu. Leur esprit charnel est humain, et leur esprit charnel, comme vous et moi, avant que Dieu nous donne son Saint-Esprit, est contre Dieu et contre les commandements de Dieu, tout simplement. Ça, il faut en être conscient au point de départ, ça nous aide à le voir. Et c'est pour ça que vous irez voir dans Romains 8, verset 7. Romains 8, verset 7, qu'est-ce qui est écrit? Ça donne la réponse. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Autrement dit, l'homme physique, charnel, qui a seulement son esprit humain, est contraire à Dieu. Il ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Il ne peut pas les comprendre ni les accepter, tout simplement. Et il n'accepte pas, il ne comprend pas ceux qui vivent selon ces lois-là. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge, comme la Bible dit. Et pour en juger spirituellement, il faut avoir le Saint-Esprit de Dieu. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et les gens autour ne se soumettent pas à la loi de Dieu. Et regardez, il va plus loin. Et qu'elle ne le peut même pas. Ça, c'est important, là. Et que la nature humaine, sans l'Esprit de Dieu, elle ne peut même pas se soumettre aux lois de Dieu. Elle ne peut même pas les comprendre. Elle ne peut même pas les accepter. Il faut que nous, on sache ces choses-là clairement dans notre esprit pour qu'on soit capable d'aimer ces gens-là en sachant qui ils sont et pourquoi ils réagissent comme ils réagissent et comment nous, on doit agir. Pour pas mettre sur leurs épaules un fardeau qui n'a pas d'affaire à être là en essayant de les convertir. C'est pas notre rôle. Comprenez-vous? Notre rôle, c'est d'être des lumières, de les encourager, d'être des bons voisins, de les aider dans la mesure du possible. Automatiquement, ceux autour vous voient comme bizarre et fanatique. Sincèrement, ils vous voient comme bizarre et fanatique. À moins Et ça, c'est dans la même mesure, là. À moins que vous ayez un comportement positif, que vous soyez gentil, que vous soyez joyeux, que vous soyez serviable, que vous n'essayez pas de les convaincre. Ils vont dire, cette personne-là est bizarre, mais elle est gentille. Je suis content de l'avoir comme voisin, je suis content de l'avoir comme voisine. Il y a des drôles de comportements, puis il y a une drôle de religion, mais ils sont gentils. Voyez-vous, ça change tout. Alors que si vous essayez de leur vendre des idées et de les amener à croire ce que vous croyez, ils vont dire, vous puis votre religion, là, non merci, j'aime mieux pas vous, j'ai pu vous voir. Comprenez-vous pourquoi certains d'entre nous ont eu des problèmes dans le passé? Parce qu'on ne comprenait pas ce principe-là. Très important à comprendre. Ça simplifie tout. Vous n'avez pas à convertir les autres. Vous avez assez d'ouvrages à vous convertir vous-même. D'ailleurs, je l'applique à moi. J'ai assez d'ouvrages à me changer moi-même que je n'ai pas le temps de changer les autres. Ça ne fonctionne pas. Soyez un très bon voisin. Soyez pas invasif, par contre. La Bible dit bien, mets rarement le pied dans la maison de ton voisin. Vous savez, il y a des voisins, il y a des voisins ventouses, hein? Avant qu'on déménage ici, il en était arrivé chez nous, pas loin des voisins qui étaient toujours rendus chez nous pour venir emprunter du sucre, pour venir téléphoner, pour venir voir comment ça allait, pour venir emprunter telle chose. Le jour, le soir, des fois la nuit, on a été bénis de pouvoir déménager après, parce que ça, c'est des voisins invasifs, là, des voisins ventouses. Là. Alors, faut pas, nous, être voisins ventouses. On peut aider, mais garder une certaine distance respectueuse. Quoi donner? La simple chose et qui fait tellement plaisir à tout le monde, considération. Considérer quelqu'un. Le considérer comme important. D'ailleurs, la Bible nous dit que tous les autres sont plus importants que nous. Le Christ nous a même considéré plus important que lui. Il est venu mourir pour nous. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est humilié. Et il dit, considérez les autres comme plus importants que vous. Considérez les autres comme des personnes humaines qui ont un futur extraordinaire, même s'ils ne savent pas maintenant. Et établir de bonnes relations avec eux. Les saluer, ça ne coûte rien. Les saluer, un petit bonjour de la main quand on passe ou quoi que ce soit. Ça, c'est de la considération aussi. Aider quand c'est possible, dans la mesure du possible. Et les respecter. Et là, j'explique quelque chose qui va exactement dans le sens du message. Respectez vos collègues de travail, respectez vos collègues à l'école, vos voisins. Respecter, ça veut dire aussi respecter le fait qu'ils n'ont pas les mêmes croyances que vous. J'insiste parce que c'est important. Respectez le fait que vos voisins, vos amis, vos parents n'ont pas les mêmes croyances que vous. Ça veut dire que si vous respectez le fait qu'ils sont différents là-dessus, qu'ils n'ont pas les mêmes croyances, c'est que vous n'allez pas essayer de leur vendre les vôtres. Vous n'allez pas essayer de les convertir ou de les changer de croyances. Voyez-vous? Ça, c'est le respect de l'autre. Et après ça, vous pouvez demander la même chose. Si quelqu'un vient frapper à votre porte pour vous vendre quelque chose, alors que la Bible dit, si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile, ne le recevez pas, vous allez être capable de lui dire, merci, j'ai pas besoin, merci, j'en discute même pas. S'il y a d'autres religions qui viennent frapper à votre porte, ne perdez pas de temps. Là, c'est pas une gentillesse, c'est de s'exposer à d'autres problèmes. La Bible dit, si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile que celui qui vous a été annoncé, ne le recevez pas. C'est pas compliqué, hein? C'est simple, simple. Puis ça simplifie notre vie aussi. De beaucoup. Donc, dans ce sens-là, donner le respect aux autres de cette façon-là. Donner de la compréhension. Prendre le temps de voir le point de vue de l'autre quand c'est nécessaire. D'être patient. D'être joyeux. D'être paisible. D'être paisible avec tout le monde. Et quand il y a des petites chicanes de clôture, s'il faut perdre un piquet, on perd un piquet, c'est pas grave. Et s'il faut perdre 6 pouces de terrain, parce que pour éviter d'avoir des chamoyages à plus finir, bon, on peut, vous savez, passer par-dessus. Ça, c'est des pacificateurs. Si on accepte même de perdre certaines choses pour être des pacificateurs comme Dieu veut qu'on le soit. Autrement dit, si je résume, c'est de faire en sorte que les autres se sentent bien en votre compagnie. Mettons ça de même. Moi, je l'ai écrit de même dans mon cahier, puis je vais essayer de m'en rappeler. C'est de faire en sorte que les autres se sentent bien en ma présence ou en votre présence. Et ça, à un moment donné, on peut le sentir. On peut le voir même dans le langage corporel ou tout ça. Il faut être attentif à ces choses-là. Alors, faire en sorte que les autres se sentent bien en notre compagnie. En d'autres mots, ça veut dire ceci. Dieu nous a donné son amour par son esprit. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, comme on voit dans Romains 5, je pense que c'est verset 5. c'est qu'il faut mettre l'amour de Dieu en action dans notre vie. Mettre l'amour de Dieu en action dans notre vie. Pour y arriver, première chose, demander à Dieu. Il faut toujours commencer à bonne place. Demander à Dieu de vous donner, de devenir un bon voisin, un bon collègue, une étudiante ou un étudiant positif, être capable d'aider les autres. De sorte que vos voisins en viendront à vous apprécier, à vous respecter, même si vous êtes très différent d'eux et bizarre. Okay? Même si vous êtes très différent d'eux, ils vont vous accepter parce que vous êtes gentil, parce que vous êtes positif. Soyez positif, c'est une autre œuvre, j'en arrive là. Parce que vous savez, il y a beaucoup de choses dans le monde autour. Quand on regarde les nouvelles, c'est évident. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui sont mauvaises et de plus en plus mauvais. Et même les jours qui viennent, la Bible dit, sont très mauvais. Et à cause de ça, je veux vous mettre en garde, parce qu'à cause de ça, certains chrétiens font l'erreur. C'est M. Meredith qui nous fait penser à ça. À cause de ça, certains chrétiens font l'erreur d'avoir une attitude négative envers la vie en général. Envers la vie en général. Étant donné que ça va si mal dans le monde, qu'il y a tellement de méchanceté, on ne fait pas la différence des choses et on a tendance à rejeter la vie en général comme étant mauvaise. Un exemple que je peux vous donner, c'est comme si quelqu'un jetait le bébé avec l'eau du bain. Hein? Vous donnez le bain au bébé, après ça, vous jetez l'eau. Mais vous gardez le bébé. Alors, ceux qui sont appelés aux merveilles de Dieu et qui voient les choses mauvaises dans le monde, mais qui sont négatifs envers tout et envers tous et envers quoi que ce soit, et à ce moment-là, c'est comme s'ils jetaient le bébé avec l'eau du bain, avec l'eau du bain. À cause de ça, certains chrétiens manifestent moins d'intérêt envers leur famille, envers leurs amis, la communauté où ils vivent, alors qu'on peut rendre des services, comme je vous dis, que notre lumière luise dans ce qu'on peut faire, avec qui on peut intervenir dans la mesure du possible. C'est ça. Mais certains ont eu tendance dans le passé, parce qu'ils connaissaient la vérité, parce qu'ils voyaient que c'était tellement mauvais dans le monde, à dire, moi, je me retire complètement, puis là, je reste à part. Non. Il dit, on ne peut pas cacher une lumière qui est sur une montagne. Hein? Dans l'exemple que le Christ a donné tantôt, il dit, elle est vue, elle est perçue. Et c'est le rôle qu'on a à jouer. Parfois, certaines personnes me disent, qu'est-ce que je peux faire dans l'Église, moi? À qui je peux rendre service? Il y a tout ça que je vous dis, là. C'est extraordinaire. Il faut que vous soyez des lumières, comme moi, je dois être une lumière d'abord en tant que membre de l'Église, de Dieu, puis ensuite en tant que ministre, bien sûr. Mais certaines personnes, à cause de ça, ont manqué d'intérêt envers leur famille, leurs amis et la communauté autour, et se sont même parfois repliés sur eux-mêmes en attendant le royaume. Voyez-vous, il faut se préparer pour le royaume. Il faut, pendant ce temps-là, en temps de préparation, être des lumières. Au contraire, il faut avoir une approche positive de la vie. Dieu nous l'a donné un cadeau extraordinaire. Et Dieu nous réserve un cadeau extraordinaire de la vie éternelle. Et entre-temps, il nous demande de soutenir son œuvre et d'être des exemples de la culture divine qui s'en vient sur la terre. Et il nous demande de développer notre personnalité, développer nos capacités, nos habiletés à aider, à servir. Jacques 2, verset 5, il est écrit ceci. « Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? » C'est nous, ça. Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas très importants et qui ne sont pas très impressionnants. C'est nous, ça. Dieu nous a appelés. Dieu a appelé seulement quelques individus de plus grande notoriété, si vous voulez, ou de plus grande richesse. Il en a appelé quelques-uns, mais très peu, très peu. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Je cite encore M. Meredith. Plusieurs chrétiens étaient des gens pauvres, humbles et simples, quand Dieu les a appelés. Certains n'avaient pas eu la possibilité de faire de longues études. Certains avaient une capacité d'écrire limitée, un vocabulaire limité, avaient une connaissance limitée du monde autour d'eux et de la scène mondiale. Mais est-ce que Dieu désire que nous restions ainsi? C'est ça qui est important. Parce que Dieu, là aussi, veut nous amener à changer, qu'on s'intéresse à des choses importantes qui nous préparent pour les fonctions qu'on aura à exercer dans le monde de demain après le retour du Christ. Il faut réaliser une chose. Si nous avions eu, et ça je le sais personnellement, si nous avions eu une vie très remplie, une vie très réussie, dans l'abondance extrême, nous aurions été trop orgueilleux pour accepter la vérité divine et pour être convertis. Je reprends ma chose. Si j'avais été très riche, Si j'avais été dans l'abondance de toutes choses, si j'avais été en contrôle de grandes entreprises ou je ne sais pas quoi, j'aurais sans doute, je parle pour moi, ça peut être le cas, ça peut être différent pour certains individus, parce que je connais un individu dans l'Église qui a été propriétaire de grandes industries en Europe et que Dieu a appelé et qui a travaillé par la suite même comme ministre. Mais c'est l'exception. Ce n'est pas toujours le cas. Mais je dis ceci, c'est que moi, si j'avais été très riche, et ça s'applique à d'autres, si j'avais eu des entreprises, si ça avait été très bien, est-ce que j'aurais eu besoin de Dieu? Quand il m'aurait appelé pour faire les efforts de changer puis de le connaître, j'étais trop occupé à d'autres choses. Alors, il a fallu que je fasse marcher mes entreprises et que je m'occupe de mes choses et non pas des choses de Dieu. M. Meredith dit ceci, « Si nous avions eu une vie très réussie, nous aurions été trop orgueilleux pour accepter la vérité divine et pour être convertis, pour accepter de changer. Nous aurions tellement eu confiance en nous-mêmes, parce que ça marchait très bien, on aurait eu tellement confiance en nous-mêmes que nous n'aurions pas reconnu avoir besoin de Dieu. » C'est fort, hein? Rappelez-vous de ça, s'il faut, notez-le. On aurait eu tellement confiance en nous-mêmes qu'on n'aurait pas eu besoin de Dieu. Et dans le cas de plusieurs d'entre nous, dont moi le premier, il m'a jeté en bas de mon cheval comme il a fait avec Paul. Et à un moment donné, j'avais tout perdu. Et là, il a frappé à la porte. Et là, j'étais plus disposé à écouter. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de lui, là. Il n'y avait plus d'autres ressources, il n'y avait plus d'autres solutions. Même chose pour l'apôtre Paul. Quand il est tombé en bas de son cheval, qui est devenu aveugle, et là, il a dit à Dieu, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Après, il a décollé pour s'en aller vers l'objectif. C'est ça. Aujourd'hui, c'est en Dieu que nous mettons notre confiance et non plus en nous-mêmes. Et c'est de lui que nous attendons la force pour être capable de nous soumettre et de développer son caractère pour atteindre le royaume. Et il veut que nous développions nos habiletés. Pas attendre que le royaume arrive. On doit développer nos habiletés partout, dans quoi que ce soit qu'on peut faire. Matthieu 5, verset 48, il nous a dit ceci, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » La barre est haute, hein? La barre est beaucoup trop haute pour vous, puis la barre est beaucoup trop haute pour moi, mais pas pour lui. Rien d'impossible à Dieu. Rien d'impossible à Dieu. Avec son aide, nous atteindrons ce but lorsque nous naîtrons de Dieu par la résurrection des morts, lorsque nous naîtrons à la vie spirituelle éternelle, dans la famille de Dieu. À ce moment-là, nous aurons atteint le but par sa puissance. Et c'est une promesse qu'il nous donne, si on est fidèle, pour mettre en pratique ses lois avec son aide. Il nous dit dans Philippiens 1, verset 6, c'est une promesse, moi, que j'ai soulignée en vert dans ma Bible, parce que les promesses de Dieu, je les souligne en vert dans ma Bible. Il dit ceci, c'est Paul qui parle, « Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, quand il appelle quelqu'un, il commence une bonne œuvre, parce qu'il veut l'amener à la vie éternelle. » Il dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Quel est ce jour-là quand le Christ va revenir? Parce que la résurrection ou la transformation totale aura lieu au moment du retour de Christ. Cette barre impossible à atteindre pour nous de la perfection, on pourra l'atteindre par la puissance de Dieu. Si on persévère jusque-là dans notre imperfection, il va nous rendre parfaits le jour où il va nous donner la vie éternelle. Jésus nous a donné un exemple parfait en toute chose. Est-ce qu'il était négligent? Est-ce qu'il était négligé dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de parler? Absolument pas. Est-ce qu'il semblait sans éducation? Absolument pas. Luc 4, s'il vous plaît. Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4, on n'est pas loin. Allons dans Luc, chapitre 4. On le voit ici. Verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. OK? Alors, le Christ observait le sabbat que lui-même avait décrété comme loi. Et après ça, il a lu dans les textes, et après, il a expliqué, il a prêché. Verset 21, un peu plus loin. « Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et le verset 22, « Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés. » Des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et il disait, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Alors voyez-vous, ça veut dire qu'il parlait pour être compris. Il parlait avec un bon langage. Alors nous, c'est un exemple qu'on doit améliorer notre façon de parler, trouver les mots, apprendre des mots nouveaux, être capable de les utiliser en sachant le sens des mots. Et quand on fait des études bibliques, souvent on va vérifier le sens des mots justement et ça fait partie de développer la culture de Dieu. On voit plus tard, malgré leur admiration pour sa capacité de s'exprimer, malgré leur admiration pour son leadership, ils ont voulu le tuer après ça. Au verset 29, ils ont voulu l'amener, comme c'est marqué ici. Et s'est enlevé, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Et le Christ a fui échappé à ce moment-là. Bien sûr, malgré son exemple de leadership, il ne comprenait pas davantage, même s'il avait entendu les paroles claires que le Christ leur avait dit. OK? Ça va ensemble aussi. Alors, je reviens à ça. Est-ce que vous travaillez à développer la personnalité, les qualités de leadership que Dieu veut qu'on développe? Ça fait partie d'un gros travail chrétien qu'on a à faire. Même la personne tout seule dans son coin, qui vient à l'église occasionnellement parce que c'est trop loin, qui vit seule, elle a besoin de développer le caractère de Dieu, de développer ses talents au maximum, de rendre des petits services autour, d'être active pour développer le caractère de Dieu et être une lumière, même si cette personne-là est seule dans sa ville, en tant que membre d'église de Dieu. Elle ne changera pas le monde, elle ne changera pas sa ville, mais elle doit être la lumière de Dieu dans cette ville-là. Et faisant ça, elle accomplit l'œuvre que Dieu accomplit. Faites-vous l'effort de répondre ou de parler avec des gens qui ont des passés différents du vôtre. C'est intéressant parce que parfois on est porté à rester avec ceux qui nous ressemblent, ou ceux qu'on a les mêmes cultures, la même langue, et ainsi de suite. Êtes-vous capable de parler avec des gens de passés différents, de cultures différentes, de nationalités différentes ou d'éducation différente? Il faut être capable de le faire. Vous savez pourquoi? Parce que dans le monde à venir, quand on va travailler avec le Christ pour aider les gens, il y aura des gens de cultures différentes, de langues différentes, d'expériences différentes. Et nous sommes maintenant à l'entraînement pour nous préparer à ces choses-là. Comprenez-vous pourquoi c'est si important de ne pas rester à l'écart et pourquoi c'est si important quand des nouvelles personnes viennent à l'Église? Et j'ai aimé ça à Montréal, il y avait des nouvelles personnes qui sont venues à la conférence du monde de demain et les membres qui étaient venus là en support ne les ont pas laissés tout seuls dans leur coin. À tour de rôle, ils sont allés leur serrer la main, leur souhaiter la bienvenue, pas pour leur vendre quoi que ce soit ou tout ça, mais pour les accueillir et faire le pont avec eux, pour que les gens voient que les gens de l'Église, ce n'est pas des extraterrestres et que c'est des gens chaleureux qui sont capables de parler avec eux, de les considérer, quelle que soit leur culture, leur langue, leur passé, et ainsi de suite. Nous sommes le peuple de Dieu, de toute langue, de toute nationalité, de toute tribu, comme la Bible mentionne. Il faut faire l'effort d'aller vers ces gens-là, dans notre entourage et dans l'Église. Philippiens 2, verset 3. Philippiens 2, verset 3. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. J'ai mentionné ça tantôt. Que l'humilité vous fasse regarder les autres, tous les autres, comme étant au-dessus de vous, ça veut dire plus important que vous. D'autres bonnes œuvres maintenant que M. Meredith mentionne. Chacun de nous doit faire son travail le mieux possible ou faire ses activités le mieux possible. C'est un principe biblique dans Ecclésiaste. Hein? Ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force, pas à moitié. Gardez vos choses en bon état. Faites votre travail, vos études, le mieux que vous pouvez. C'est le principe qui nous est donné. Et là-dessus, je fais une petite parenthèse parce que mon épouse a écouté un sermon qui a été présenté, une étude biblique qui a été présentée au camp des jeunes aux États-Unis il y a quelques semaines. Et il y a des études bibliques par des ministres. Là. Et il y avait un ministre d'Afrique du Sud qui est venu parler aux jeunes. Et il leur a donné un exemple qui m'a vraiment frappé. On en a parlé en prenant le café après ça. Ce ministre-là a mentionné que son père était un employeur en Afrique du Sud. Donc, il engageait plusieurs personnes. Et c'est intéressant ce qu'il faisait pour départager les gens qui s'étaient inscrits pour certains emplois. Il fallait qu'il rencontre le monsieur dans son bureau. Et parfois, il dit, j'arrivais avec deux curriculum vitae semblables ou des compétences à peu près semblables pour un poste à confier. Comment je vais départager ça? À qui je vais donner le travail? Et là, j'ai trouvé que le père de notre ministre avait une sagesse extraordinaire. Vous savez ce qu'il faisait? Il prenait une feuille de papier, il la friponnait, il la mettait à terre à côté de son bureau en avant. Alors, les deux candidats venaient pour présenter leur curriculum vitae, pas pour les présenter, mais pour discuter de l'emploi, pour voir s'ils pouvaient l'avoir. C'était l'interview avant de la décision finale. Et quand il y avait identité entre les deux curriculum vitae, donc était de qualité et de compétences égales, le monsieur donnait le travail à celui qui avait ramassé le papier pour le mettre dans la poubelle. Pourquoi? Parce que celui qui faisait ça voyait un besoin et il le faisait. Il n'attendait pas que quelqu'un lui dise quoi faire. Il voyait qu'il y avait un besoin, qu'il y avait de quoi qui n'allait pas là. Il corrigeait la situation. Donc, c'était une qualité inhérente à cette personne-là qui allait en faire un employé supérieur à l'autre, qui voyait le papier en avant de lui à terre, mais qui laissait aller. Voyez-vous? Il y avait quelque chose de plus, là. Formidable. J'ai trouvé l'exemple intéressant. Ça, je l'ajoute ici. Alors, M. Meredith dit, « Faites ce qu'on a à faire de bonne façon, au mieux. Gardez nos appartements, nos maisons, nos terrains le plus propre possible. » Écoutez, on est les ambassadeurs de Christ. On est les ambassadeurs du monde de demain. Même si on n'a pas un château, il faut le garder propre, en ordre. Pas laisser traîner les choses pour que ce soit attrayant, pour que ce soit ordonné. Dieu est un Dieu d'ordre et on doit refléter ce caractère-là. Et après ça, il nous dit, nous habiller, bien sûr, proprement, selon nos moyens, selon les activités qu'on fait aussi. Apprendre des mots nouveaux, apprendre à faire une meilleure utilisation du langage. Et c'est une chose qu'on doit apprendre parce qu'on ne l'a pas de façon innée et on n'a pas vraiment appris ces choses-là. M. Meredith dit, apprenez aussi à diversifier vos intérêts. Apprenez d'autres activités que vous n'êtes pas habitué de faire, qui vont vous aider aussi. Vous allez développer des talents nouveaux, vous allez développer des aptitudes nouvelles. Développez vos connaissances générales aussi, par la lecture. Lecture de biographies, de choses positives qui vont vous aider à comprendre des principes de vie. Développez nos talents. Tout ça mis ensemble, qu'est-ce que ça fait? C'est que vous devenez un témoignage de qui nous sommes. Les représentants de la culture de Dieu qui vont remplir le monde très bientôt. Ne pas rester timide ou hésitant. Plusieurs d'entre nous, en venant à l'Église, on est timide, on est hésitant. Et c'est fantastique. Moi, j'ai vu l'histoire de certaines personnes que Dieu a appelées, qui étaient plus que timides, je vous dirais, et qui aujourd'hui ont vaincu ces choses-là. Parce que ces personnes-là ont tenu bon, ils ont demandé à Dieu. Et parfois, elles ont avancé les yeux fermés en voyant pas que ça allait marcher, en disant, j'ai demandé à Dieu, c'est ça qu'il me dit de faire, je vais le faire. Et ils ont réussi à le faire, pourquoi? Parce que c'était ce que Dieu demandait de faire et qu'elles avaient demandé à Dieu de les aider. Et Dieu a répondu, il dit, demandez et vous recevrez. C'est fantastique parce que Dieu répond aux prières. Alors, il faut toujours aller frapper à sa porte au commencement. Si vous êtes timide, si vous êtes hésitant, demandez à Dieu de vous donner l'assurance dont vous avez besoin. Dans 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée 1, verset 7. Ça vaut la peine qu'on passe là parce qu'on a un principe important. 2 Timothée 1, verset 7. Il est dit ceci. « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. » Comprenez-vous qu'il faut demander son esprit pour ne plus être timide? Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Force, amour, sagesse. Par la puissance de Dieu, on peut vivre selon nos convictions, sans faire de compromis, et être un exemple pour les autres autour, sans essayer de les convertir par nos paroles. Les gens ne seront pas d'accord avec ce que nous croyons, mais ils vont constater les résultats positifs et heureux que nous atteignons dans notre vie. Ils vont nous voir changer, comme je vous disais tantôt. Que votre lumière luise. Ne soyez pas des trompettes. Ne soyez pas des trompettes, soyez des lumières. Faites ce que vous avez à faire et laissez le reste entre les mains de Dieu. Et vous savez, je vais plus loin un petit peu, parce que c'est important de préciser ça. Ce n'est pas aux membres de l'Église d'enseigner pour l'instant. Dans le monde à venir, ce sera le rôle de tous les appelés maintenant qui sont en train de se préparer. Là, on va devoir enseigner le monde entier. Chacun sera un enseignant, un dirigeant, un roi, un gouvernant, un administrateur. Mais ce n'est pas le rôle des membres de l'Église aujourd'hui d'enseigner pour l'instant. Comme ça se passe dans certaines églises, j'ai appris ça dernièrement en visitant quelqu'un, où dans leur église, c'est une grande église, ce sont les membres, en grande partie, il y a un ministère, mais ce sont les membres qui s'enseignent les uns aux autres lors des assemblées de sabbat. Alors que dans l'Église de Dieu, ce n'est pas ça. Dieu a établi une hiérarchie et c'est le ministère qui doit enseigner, comme c'est le ministère qui doit annoncer l'Évangile dans le monde et non pas les êtres humains personnellement. Alors, ce n'est pas aux membres de l'Église d'enseigner. Dieu a établi un ministère. Allez dans Éphésiens chapitre 4, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 4, c'est très, très clair. On a besoin de voir ça et d'en être convaincu. Versets 11 à 13. Il a donné les uns comme apôtres. Et ici, vous avez la description du gouvernement de Dieu, ceux qui doivent enseigner. ceux qui sont ordonnés en tant que ministres à différents postes, différentes fonctions. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. L'enseignement doit venir de là, en vue de l'œuvre du ministère. Vous, c'est le travail du ministère et de l'édification du corps du Christ, de l'Église, pour que l'Église soit enseignée, qu'elle soit dirigée, qu'elle soit corrigée, qu'elle soit encouragée, consolée, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, voyez-vous, dans l'Église de Dieu, on suit le gouvernement de Dieu et ce sont les ministres qui doivent enseigner la parole de Dieu. Et c'est pas, comme je mentionnais, c'est pas aux membres non plus d'annoncer l'Évangile au monde, d'aller prêcher. C'est à l'Église, c'est aux ministres, c'est aux évangélistes, par la radio, par la télévision, par les conférences, et ainsi de suite. Et les membres nous supportent par leurs prières, par leurs dîmes, par leurs offrandes, par leur présence, par leur encouragement, par leurs petits mots. Tout ça fait que l'équipe, la famille est en action. C'est l'Église qui fait ce travail-là. Par contre, je reviens à ça, et je vais terminer là-dessus. Si quelqu'un vous pose des questions sur vos croyances, soyez prêt à répondre de façon simple, de façon claire. Je reviens à ça. Si quelqu'un vous pose des questions, essayez pas de provoquer les gens à vous poser des questions. Ça, j'ai déjà vu ça aussi. J'ai déjà été pas victime, mais quelqu'un m'a déjà abordé en disant « Êtes-vous sauvé? » On sait là où ils veulent aller et qu'est-ce qu'ils veulent nous vendre. À ce moment-là, j'ai rien à continuer à discuter avec ces personnes-là. Mais ils veulent susciter des questions pour embarquer dans une conversation pour nous vendre leur salade. Alors, on ne doit pas provoquer des questions. S'il y a des questions qui viennent d'elles-mêmes, logiquement, là, on doit être prêt à répondre. Voyez-vous comment Dieu est logique et Dieu est simple? Il y a juste une seule façon de faire les choses. Il faut être prêt à ce moment-là à répondre de façon claire, simple, sans argumenter. Et sans mettre aucune pression. On répond à la question, point. Pas plus non plus. C'est pas le temps de saisir l'occasion parce que quelqu'un a demandé une petite question qui demande une réponse courte. Ce n'est pas le temps de passer en revue la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. En parlant des résurrections, de la dîme, de ces choses-là, c'est pas le temps. Répondez à la question. S'il y a une autre question, il y aura une autre question. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. OK? Il faut s'habituer, il faut se discipliner à répondre à la question. Si quelqu'un vous demande l'heure, vous ne commencez pas à lui citer le bottin téléphonique de votre ville. Il vous a demandé l'heure. Vous lui donnez gentiment l'heure. S'il y a une autre question, il va poser sa question. Et comme je dis tantôt, si vous voyez que ces questions-là, les questions des gens ont un but d'argumenter avec vous, n'allez pas plus loin. Invitez la personne à vous respecter et vous dites que vous la respectez vous-même. Mais je reviens à ça. Si vous répondez comme il faut aux questions normales que les gens posent, répondez seulement à ce qui vous est demandé. N'essayez pas de profiter de l'occasion pour en ajouter le plus possible. Un dernier verset, 1 Pierre 3, verset 15. 1 Pierre 3, verset 15. « Sanctifiez dans vos cœurs le Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, à répondre avec douceur et respect devant quiconque demande raison de votre foi. » Et comprenez-vous que pour être prêt à répondre, il faut connaître la parole de Dieu et il faut en vivre. Alors, tout ce que je vous explique aujourd'hui, c'est pour s'habituer à servir, à comprendre les autres, à développer le caractère de Dieu et à nous préparer à régner, à servir dans le monde à venir.